Et bonjour, bienvenue dans cette émission proposée par propriété-privée.com, le réseau immobilier. Aujourd'hui, on va parler de la primo-accession, comment redonner accès à la propriété en 2025. C'est ce que nous allons voir avec nos deux experts, nos deux invités du jour. Michel Lebras, bonjour.
Bonjour Bernice.
Vous êtes le président du réseau propriété privée et Henri Buzicazo, bonjour.
Bonjour Bernice.
Vous êtes le fondateur de l'IMSI et également expert des politiques du logement. On va parler donc de l'accession à la propriété, un rêve qui s'éloigne pour un grand nombre de Français, entre les prix élevés, les taux d'intérêt encore tendus qui remontent dans certaines banques tout doucement, l'offre insuffisante et puis surtout les normes complexes. L'achat, il faut le dire, l'achat immobilier devient une épreuve, surtout pour les primo-accédants. Alors première question, Michel, qu'est-ce qu'un primo-accédant ?
Alors Bernice, un primo-accédant, c'est pas nécessairement le couple de 25 ans qui vient de se mettre en couple justement, c'est quelqu'un qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale durant les deux dernières années. Et donc en moyenne, c'est quelqu'un en France qui a 36 ans,
d'accord.
Moyenne c'est 36 ans, acquisition moyenne 240 000 euros, 192 000 euros de financement et à peu près 23 ans je crois d'endettement pour ces primo-accédants, voilà.
D'accord. Donc c'est globalement des personnes qui travaillent, qui sont locataires et qui achètent pour la première fois.
Exactement, qui rachètent, puisque ces deux dernières années, ils n'ont pas
d'accord.
été propriétaires d'un logement. Alors effectivement, on pense surtout aux premiers,
oui.
aux primo, aux vrais primo-accédants oui. qui travaillent, qui viennent de se mettre dans la vie active et qui souhaitent acheter, faire l'acquisition d'un logement.
Alors vous qui êtes répandu sur toute la France, hein,
oui.
vos conseillers sont vraiment dans un maillage assez régulier en France. Quels sont les retours terrain justement par rapport aux difficultés que rencontrent ces personnes-là, ces primo-accédants pour devenir propriétaires?
Ben, en fait, les difficultés, ça a été surtout dans les deux dernières années. En fait, il y a eu une grosse difficulté d'acquisition des logements due aux contraintes du HSCF, du coup aux contraintes financières donc faites par Bercy sur
le Conseil de la stabilité financière.
Exactement, la stabilité financière HCSF,
ouais.
pardon, et qui effectivement avait restreint l'accès au logement pour les primo-accédants notamment. Et là, au contraire, on a un retour de ces primo-accédants depuis une grosse année à peu près. Et donc, on retrouve ce type d'acquéreur sur le marché. Voilà.
Donc, c'est vrai que c'est ça, on l'entend de la part de plusieurs autres réseaux. C'est quelque chose d'assez généralisé. Henri, vous avez souvent alerté sur le risque d'une génération locataire, surtout ces deux dernières années. Est-ce qu'on était dedans ? Est-ce qu'on peut dire qu'on en sort tout doucement ?
Alors, depuis 20 ans... on a fabriqué, si je peux utiliser le mot, des primo-accédants. On a favorisé la baisse des taux, évidemment, on les a largement favorisés. La politique de distribution du crédit par les banques a favorisé les primo-accédants. Et en effet, qui à 80% sont des jeunes qui viennent de constituer un ménage, qui ont leur premier ou leur deuxième emploi. Ça, c'est le gros du vivier. Depuis 20 ans, ça fonctionnait. Les politiques publiques suivaient. Le prêt à taux zéro pour l'achat dans le neuf ou dans l'ancien rénové était large, accessible sur tous les territoires. Et depuis 2-3 ans, en revanche, on a vu que cette primo-accession, largement à cause de l'explosion des taux, c'est la vérité, c'était éloigné de la propriété immobilière, avait été coupé de la possibilité de s'endetter, parce que quand les taux passent en gros de 1 à 4
ouais.
Pour les primo-accédants, tout simplement, on perd dans la file quelque chose comme 80% des primo-accédants. Il ne reste
ouais.
plus que les plus aisés d'entre eux, qui ont un apport personnel significatif,
ouais,
avec
ça,
une aide
ouais.
familiale,
ouais.
qui ont des revenus, même si ce sont des jeunes salariés élevés, parce qu'ils ont fait, ils ont des emplois à responsabilité. Donc, ces primo-accédants ont été sacrifiés. Ça va mieux, très clairement, depuis quelques mois. D'abord, les banques, elles aiment les primo-accédants. Ce sont des clients prometteurs pour les banques. Et donc, l'acquisition d'un client primo-accédant, même si on va lui faire un crédit sur lequel on ne va pas marger, Hein, ceux qui ont les plus attrayants des taux de crédit aujourd'hui sont les primo-accédants.
Ouais, parce que c'est des clients pour une vie, pour la banque.
Aujourd'hui, on voit des taux, souvent par l'intermédiaire de courtiers, qui descendent en dessous des 3.
Oui, hein, parce 3%. Qu'en fait, le crédit immobilier, c'est un peu un hook pour une banque.
Voilà.
Ça lui permet
donc
d'attraper
cet accédant, ce jeune ménage. On va l'équiper, comme on dit, c'est-à-dire qu'après, on va lui vendre tout un tas de produits, d'épargne, de nouveaux crédits pour sa voiture, etc. C'est le client prometteur. Donc les banques aujourd'hui reviennent, et c'est très heureux, il faut le dire aux primo-accédants d'ailleurs qui peuvent avoir peur de se présenter à la banque, allez voir votre banque. Elles se sont décomplexées après 18 mois, 2 ans où l'inflation les a raidies. Elles se sont dit allez, on ferme les vannes, notamment pour ces clients-là, on rouvre les vannes. Les taux, bien sûr, ils ne sont pas ce qu'ils étaient, ils ne reviendront pas à ces niveaux-là, qui n'étaient pas sains. Les banques ont besoin de gagner
leur vie. Autour de 1,5%.
On les a connus à 1, 2, 1,3. Ça, on ne va pas le revoir. Il ne faut pas qu'on le revoie. Le système bancaire, il a besoin de vivre. Donc, on va voir des taux. Allez, bon an, mal an, 2,5% serait l'idéal dans quelques mois. Si la santé de notre pays le permet, si on a un bon regard des marchés. Aujourd'hui, on est autour de 3. Les prix ont quand même été corrigés à la baisse, selon les territoires. L'un dans l'autre, je pense qu'on a dû récupérer à peu près une moitié des primo-accédants qu'on avait perdu
ouais.
Voilà, depuis 2-3 ans. Donc ça va mieux.
Michel, c'est vrai que ça confirme ce que vous nous annonciez. Alors, il y a eu une mesure aussi qui a peut-être aidé certains ménages, c'est le PTZ, le prêt à taux zéro qui a été élargi. On en a beaucoup parlé, alors pour le neuf, mais pas que, pour l'ancien avec travaux également.
Oui, alors ça a aidé, c'est un courant dans lequel effectivement il y a le PTZ, il y a aussi l'exonération des DMTO, de la hausse des DMTO, pas des DMTO complètement, mais donc des droits de mutation à titre onéreux et qui a été décidé effectivement pour les primo-accédants.
Donc les fameux frais de notaire, l'augmentation ne concerne pas les primo-accédants.
Exactement, l'augmentation de 0,50 sur la part départementale ne concerne pas les primo. Mais c'est surtout ce que disait Henri, effectivement, c'est cette volonté des banques d'acquérir de nouveaux clients qui a redynamisé ce marché. C'est 30% du marché français. C'est gigantesque, en fait, qui était absent quasiment, hein. Tu l'as dit, c'est 80% de ces 30% qui étaient absents pendant 2 ans. Et là, on retrouve effectivement cette clientèle et effectivement qui est très courue par les banques, qui a ses problématiques précises sur un marché très précis. Et nous, on s'est adapté effectivement pour répondre à ce besoin, qui est un besoin massif tout d'un coup, effectivement, de ces primos qui avaient été freinés pendant les 2 dernières années, qui tout d'un coup reviennent sur ce marché.
Et vous avez lancé Primo First, justement. Alors, qu'est-ce que c'est, Primo First?
Primo First, en fait, c'est la mise en avant. Je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait, nous, dans notre portefeuille, 8000 biens qui correspondaient à des biens cibles de primo-accédants, qu'on avait identifiés comme tels. Et c'était l'idée de rebondir sur, effectivement, la décision de la ministre d'exonération des MTO, de l'extension du PTZ, et de se dire, participons à ce mouvement, en fait, finalement. Participons en donnant des conseils, et en organisant, en étant un acteur responsable autour de la primo-accession. Et on a fait un livre blanc aussi pour aider les gens à pas tomber dans les pièges du premier achat, pour agrémenter ça. Et puis voilà, donc c'est 8000 biens. On a formé les conseillers à la manière d'accompagner ces primo-accédants avec vraiment un focus sur l'accompagnement. Je vais vous en parler sur quelques clés, sur les quelques points sur lesquels il faut faire attention au moment de l'acquisition. Voilà, c'est vraiment pour accompagner ce besoin de la société qu'on ressent de façon très très forte actuellement sur la primo-accession.
Henri, votre regard justement sur ce type d'initiative?
Déjà, il faut rappeler, contre certains discours publics, y compris au sommet de l'État, que invariablement, les jeunes français et les jeunes ménages français veulent accéder à la propriété une première fois. Ils veulent entrer dans la propriété. Et surtout, ils ont raison. C'est pas une espèce de fantasme, je vais être propriétaire. On a entendu, y compris du président de la République, qui est un homme jeune, mais qui fait partie d'une catégorie de population finalement infime, c'est-à-dire des personnes surdiplômées qui vont voyager dans le monde entier pour aller faire de la finance. Bon. C'est l'essentiel des ménages français, ça n'est pas ça.
Non, bien sûr.
De plus en plus même, il y a un retour à l'ancrage territorial et à l'envie d'être propriétaire là où on est né, là où on a grandi, et si possible d'y retrouver un travail. Et puis de préparer sa retraite. La préparation aujourd'hui de l'avenir, Les jeunes sont très responsables. Moi, quand j'avais l'âge qu'ont mes enfants, je ne m'interrogeais pas sur la retraite. Voilà, je vais être très clair. J'avais une impéritie totale. Les jeunes, aujourd'hui, sont éveillés à ça. On leur explique que s'ils n'ont pas une précaution liée à la capitalisation, c'est-à-dire mettre de côté, être propriétaire de sa résidence principale, voire investir, louer sa résidence principale si on est très mobile. En tout cas, cette volonté d'acheter, elle est extrêmement forte. Et ça ne varie pas, ça se renforce. Ça, c'est article 1. Article 2, il est certain que on voit bien aujourd'hui que il y a des risques attachés à la primo-accession. C'est pas de tout repos. Si on n'achète pas au bon prix, la première fois qu'on achète, on met fin à l'aventure pour toujours. Peut-être qu'on va divorcer et qu'on va revendre. Et alors, comme on a acheté trop cher... Il y a des histoires tristes de mauvais accidents. Donc, c'est très heureux de les conseiller, de les accompagner. Il ne faut pas qu'ils se trompent, qu'ils mesurent les charges liées à la propriété. Quand on achète en copropriété, il y a des charges particulières. Quand on achète une maison individuelle, je crois que c'est à peu près la moitié des conseillers propriété privée qui vendent des maisons individuelles et pour moitié des appartements en collectif. Il y a des cas différents de risques, mais il faut mesurer ces risques-là. C'est un fait. Il faut savoir à quoi on s'engage. Et puis, il y a un phénomène social. La propriété, elle responsabilise. Voilà, ça c'est vérifié depuis toujours. Elle fabrique des ménages qui sont beaucoup plus stables, même socialement, même politiquement, qui ont un regard beaucoup plus serein. La propriété n'a que des vertus si on ne se trompe pas. Effectivement, il y a des écueils dont il faut se garder.
Et est-ce que ce genre de démarche privée peut combler les lacunes des politiques publiques ?
Oui, bien sûr. Mais les politiques publiques, si on parle de retraite, la retraite par répartition, est-ce qu'on peut parler de lacune ? Simplement, on n'a pas bien géré collectivement depuis 40 ans notre affaire, et donc le régime il est déficitaire. Bon. Et donc beaucoup, on n'en finit pas d'équilibrer ce régime-là, c'est encore un débat politique houleux, beaucoup de ceux qui arriveront à la retraite dans 30 ans n'auront qu'une faible partie de ce qu'ils gagnent en activité qui leur sera versée. Et donc leur train de vie, même les moyens de se soigner, hein, par exemple, hein, quand on a 70, 80, 90 ans, ils ne l'auront pas, sauf si ils ont pris des précautions de nature immobilière essentiellement. Ceux qui auront mis de côté avec un portefeuille d'actions, c'est l'extrême minorité. C'est vraiment l'immobilier qui est le réflexe, et il faut traiter comme il faut ceux qui ont envie de faire leur première opération. Et c'est vrai que les pouvoirs publics aujourd'hui, au moment où on parle, ben, ils ont réélargi le prêt à taux zéro à la maison individuelle, qui est un produit qu'aiment les Français, surtout les territoires, parce qu'on a envie d'accéder non pas seulement en périphérie des grandes villes, loin de là, mais de plus en plus dans des villes moyennes ou en territoire rural. Voilà, donc c'est un produit puissant, et puis les banques font le reste. Elles traitent bien les primo-accédants.
Michel, comment on accompagne au mieux un primo-accédant quand on est conseiller au sein du réseau propriété privée?
Alors, on forme nos conseillers, Henri l'a dit, l'écueil, le premier point, c'est de ne pas acheter trop cher, voilà. De faire le bon achat, qu'on a les moyens de se payer, qui est raisonnable. Et c'est ça le premier accompagnement. Donc c'est vraiment sur la responsabilisation autour de cette acquisition, notamment sur effectivement l'acquisition, mais après les coûts qui vont avec par la suite, comme tu le disais, et sur le financement. Voilà, c'est vraiment les gros points, comment les accompagner sur le financement. Le financement de l'acquisition, mais aussi le financement des travaux. Parce qu'avec la loi climat et résilience, il y a effectivement cette problématique où on se retrouve sur des valeurs de biens sur les 8000 biens, on va être entre 80 000 et 250 000 euros, où il y a souvent une problématique de rénovation, de performance énergétique liée au chauffage, liée au type de chauffage. Et là, effectivement, il faut inclure dès la phase de l'acquisition ce traitement-là, avec le changement du type de chauffage, avec le changement éventuellement des ouvrants, et intégrer ça dans l'acquisition, dans le financement, voilà. Donc avec le bon partenaire bancaire, la bonne estimation. Et ça c'est fondamental, parce qu'autrement, effectivement, ça va être une erreur. Les gens vont se retrouver dans des difficultés sur cette première acquisition, et ça va mettre en péril après leur vie tout au long de leur vie. Ils vont payer ça. Donc effectivement, nous, c'est vraiment responsabilisation, prise en compte de climat et résilience, et accompagnement vers le bon financement aussi. Voilà.
Et ça, le bon financement, il y a beaucoup de pédagogie à faire de la part, pour les primo-accédants. Il faut que le dossier soit béton. Faut pas hésiter aussi à faire le tour des banques, hein, parce qu'on a vu, selon certaines banques, les taux varient énormément.
Exactement. Il y a des organismes bancaires qui ont des prêts bonifiés, hein, qu'on appelle le crédit à impact, sur la recherche d'amélioration énergétique. Et ça, on les amène dès l'acquisition à se renseigner là-dessus. On les accompagne vers la constitution d'un dossier, vers la réalisation de devis. Il y a certaines banques aussi qui peuvent le faire à partir d'enveloppes et de logiciels qui permettent de déterminer ces enveloppes de financement. Et ça, c'est très, très important de responsabiliser sur la globalité du projet. C'est fondamental pour, évidemment, que ce soit une réussite. Voilà.
Il y a certaines banques qui doublent le PTZ aussi. C'est important de
le
préciser.
Oui, alors il y a des banques qui font ça. Il y a des collectivités locales qui également prennent soin des primo-accédants. Parce que pour un maire, par exemple, attirer ménage dans sa commune, c'est important.
Avec des enfants, on va pouvoir ouvrir une crèche,
tout à fait. Donc,
des écoles.
Les collectivités locales, les élus font également des efforts. Un autre piège, c'est de ne pas regarder l'assurance emprunteur.
Bien sûr.
Et là, c'est aussi un conseil à donner. Je dis volontiers que les courtiers en assurance, aujourd'hui, ont un rôle de conseil. Ils ont des liens de partenariat le plus souvent avec des réseaux comme propriété privée. Bon, et puis, il y a des compétences qu'on peut internaliser dans un réseau comme le tien. Mais en tout cas, il faut aussi regarder cette assurance. Pourquoi ? Parce que les taux qui sont proposés par les banques, les taux d'assurance emprunteur, sont médians. Les jeunes emprunteurs ont des risques minorés. Leurs risques de maladie sont extrêmement réduits. Leurs risques de mortalité, évidemment, sont
réduits.
Donc, ils peuvent bénéficier de taux sur mesure. Voilà, il faut travailler aussi là-dessus.
Et ne pas oublier que grâce à la loi Lemoine, on peut changer d'assurance emprunteur à partir de la première année de contrat.
C'est majeur.
Pour terminer, Michel, votre regard, justement, sur la suite là, de cette année, on va dire 2025, voilà, l'avenir pour les jeunes, j'ai envie de dire les jeunes, parce qu'à 36 ans, on est jeune encore.
Je pense que la primo-accession, elle est florissante actuellement. Effectivement, il y a eu ce frein pendant 2 ans, là c'est reparti à fond. Effectivement, il y a ce risque sur la remontée des taux, hein, qu'on commence à voir. Néanmoins, effectivement, ce qu'a dit Henri est vrai, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que l'aspiration première des Français, quel que soit leur âge, c'est effectivement de se constituer ce patrimoine immobilier. Et ça change pas, malgré la volonté des politiques. T'as raison de le dire, parce qu'effectivement, il y a toujours ce mythe de vouloir changer ça. Mais finalement, le désir, c'est de devenir propriétaire. Nous, on est là pour les accompagner. Vraiment, je pense vraiment que le rôle aussi d'un réseau comme propriété privée, c'est vraiment de suivre ces tendances et d'accompagner ces tendances, voire de les précéder, pour effectivement être un facilitateur, mais un vrai facilitateur, et non pas quelqu'un qui vient après la bataille, mais pour l'anticiper. C'est tout le sens de cette offre Primo First. Voilà, c'est pour accompagner ces jeunes vers une réussite.
Eh bien, voilà pour cette mise en avant, en tout cas dispositif très intéressant, Primo First, proposé par le réseau propriétéprivée.com. Merci beaucoup, messieurs, pour cette interview, pour cette émission. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un tout nouveau numéro.